Aujourd'hui, à une ère de pénurie relative, a succédé une ère d'abondance exceptionnelle qui n'est cependant pas forcément la preuve d'une vraie réhabilitation de la source orale dans la communauté scientifique. Car si elle est un objet omniprésent à la mode, elle reste pour certains marginale en dépit de ses efforts vers l'histoire dite sérieuse. Un intérêt général grandissant pour la redécouverte du passé a élargi la pratique de l'histoire orale au point de la transformer en un outil qui ne se limite pas à la recherche historique, mais devient à son tour une pratique plus générale de création d'un patrimoine historique. Consacrant l'histoire d'en bas et permettant d'étudier les conditions des groupes dits marginaux, le témoignage oral intéresse aujourd'hui l'histoire dite d'en haut, comme ce grand projet des Nations Unies qui ont confié à l'Université de Yale l'entreprise d'une vaste histoire orale de l'institution basée sur une série d'entretiens avec des personnalités ayant participé aux activités de l'ONU. Nombreux sont les associations, les groupes, les institutions, les administrations, mais également les individus, que ce soit par exemple pour retrouver leurs racines familiales, intéressés par cette démarche de mémoire qui recherche un appui méthodologique ainsi qu'un suivi. La collecte des témoignages oraux se réalise dans différents contextes, mais également avec des objectifs variés. Il faut dire que l'occasion est assez extraordinaire, puisque notre époque est la première dans l'histoire où 4 voire 5 générations sont amenées à coexister et à se découvrir en vivant ensemble, alors que les générations se succédaient en se poussant les unes les autres. En outre, l'accélération de l'histoire soumet les individus à des successions d'événements et de circonstances de plus en plus nombreux. Cette diversité croissante rend de plus en plus indispensable l'échange des savoirs et des expériences. La collecte des témoignages permet de réinsérer l'histoire passée dans l'histoire présente et de mettre à la disposition des générations les plus récentes des informations nécessaires à la compréhension des trajectoires sociétales. Les précurseurs dans le domaine sont, selon la tradition, situés outre-Atlantique, où dès 1840, Lyman Copeland Draper, excusez mon accent, considéré comme un des pères de l'histoire quelques millénaires après Thucydide, interview les soldats de la Révolution américaine. Les universités intègrent des programmes de formation sur l'histoire orale. Ainsi, en 1968, est créé, oh mon Dieu, mon anglais, le Center for Oral History à l'Université du Connecticut. L'International Oral History Association se met en route en 1996. Des revues voient le jour, telles Oral History Review, ainsi que de nombreuses bibliographies et guides méthodologiques font leur apparition. Il faut toutefois signaler que l'ouvrage méthodologique que Jan Vansina consacra en 1960 à De la tradition orale, essai de méthode historique, publié dans les collections du Musée royal de l'Afrique centrale, qui a été et reste encore actuellement un ouvrage fondamental de référence et qui connaît de nombreuses éditions dans de nombreux pays. Le courant va atteindre dans les années 1970 l'Europe, mais également l'Afrique, où de nombreux pays, Dahomey, Cameroun, Burkina Faso, organisent dans le cadre de la réalisation du vaste projet d'histoire générale de l'Afrique, soutenu par l'UNESCO, des formations méthodologiques pour les centres de recherche chargés de la collecte des données. Si les centres de formation à l'histoire orale et les sociétés sont légion dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup moins nombreux dans nos contrées. Afin de faire face à la demande sans cesse croissante d'une initiation à la pratique de la source orale, on ne peut que renvoyer à une littérature plus qu'abondante. Les ouvrages et articles méthodologiques ainsi que les manuels pratiques sont extrêmement nombreux, ainsi que les publications de réflexion sur la nature de la source orale. On trouve également de nombreux guides à destination des enseignants, des enseignements et des étudiants, d'importantes bibliographies annotées, des revues spécialisées, des catalogues de collections consacrés soit à une zone géographique définie, soit à une thématique ou à un centre pratiquant la collecte donnée. Pour ce qui est de la Belgique, Florence fait le constat suivant. Elle regrette que de nombreuses associations qui travaillent dans la récolte, en tout cas qui travaillent dans la formation en vue de récolter des récits de vie, restent dans la confidentialité. Donc sa proposition, c'est de justement créer une synergie entre ces associations pour mieux se faire connaître et pour mieux élaborer peut-être ensemble, tout en gardant quand même sa spécificité, eh bien, un processus de formation pour cette récolte. Voilà, merci.